France Inter, le 18-20.
C'est important ce qui se passe ce soir en France, place de la République et ailleurs. Important ce que nous sommes tous collectivement capables de montrer. Ou pas d'ailleurs, ces derniers jours, il y a donc eu les insultes, les graffitis, il y a eu l'arbre d'Ilan Halimi qui a été arraché, et puis aujourd'hui encore donc cette profanation, voilà où nous en sommes. J'allais dire, voilà où nous en sommes revenus, mais en fait non, parce que l'antisémitisme en France n'a jamais disparu, il sait réapparaître à de multiples occasions, peut-être entraîné par d'autres forces. On essaiera de comprendre d'ailleurs si le contexte de rébellion, d'anti-parlementarisme, on va dire, dans lequel nous sommes aujourd'hui, est un critère aggravant. En tout cas, un mouvement sans tête, sans direction, fait souvent sauter les vigilances. On entend dans la rue désormais ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui donc on marche dans la rue, Emmanuel Macron parle de réponse, il dit on prendra des actes, on prendra des lois et on punira. Est-ce que c'est ça la réponse? On en parle ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Serge, c'est vous le premier, soyez le bienvenu au téléphone sonne, Serge.
Voilà.
Allez-y, on vous écoute, allez-y.
Je suis à l'antenne.
Absolument, vous êtes à l'antenne, ouais.
Bonjour, ben Serge des Hautes-Pyrénées. Je vais plutôt donner un témoignage. Je suis d'origine polonaise. J'ai rencontré il y a bien des années une superbe jeune femme qui avait un père génétique juif. Je m'en suis, comment dire, pas glorifié, mais j'étais tellement heureux devant mes parents, et bien entendu, plus tard nous nous sommes mariés avec cette superbe jeune femme, qui hélas vient de décéder, et alors donc, je n'avais pas fait attention à la réaction de ma mère, mon père a souri, il était tout content, nous étions vers les années des procès Eichmann, et donc, tout allait bien, sauf que pour notre mariage, ma mère n'a pas voulu venir, a refusé que ma sœur vienne, a fait la gueule à mon père qui est venu à notre mariage. Et quelques années après, quand mon papa est décédé, avec mon épouse, nous avons été à Paris, et nous, donc mon épouse a connu ma mère, et ma mère est obligée de la connaître, et quelques temps après, nous avons mangé ensemble, et à table, ma mère a dit « Serge, tu sais que j'aurais tout accepté, même une balayeuse des rues, mais pas ça. » Et elle désigne mon épouse. Donc nous étions polonais, d'origine polonaise, mon père, ma mère et moi. Ma mère avait un antisémitisme soft, mais très ancré, antisémitisme catholique. Et à propos de catholique, notre fils, quelques années avant, était rentré de l'école et me regarde et dit « Papa, est-ce que je suis juif ?» J'ai dit « Mais non, mon fils, parce qu'il y a un copain qui m'a dit, avec ton nom bizarre, nous avons un nom à consonance polonaise, avec tes cheveux blonds, et comme tu ne vas pas à la messe, ben tu es juif. » Alors voilà ce que je veux dire au travers de ça, c'est l'ancrage de cette merde dans la tête des gens. Je ne vais pas citer tous les exemples que j'aurais cités. Pour moi, l'antisémitisme est une altération mentale. Mental, voilà.
Serge, merci pour ce premier témoignage qui nous met bien dans le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, et pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir, Marianne Matar-Bonucci est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure à Paris 8, spécialiste du fascisme et de l'antisémitisme, et puis Denis Péchanski est avec nous également. Bonsoir Monsieur Péchanski.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Moi, il y a une chose qui m'a fait réagir, Marianne Matar-Bonucci, peut-être dans le témoignage de Serge, c'est « Ma mère avait un antisémitisme soft, mais très ancré », ce sont les mots qu'il a employés, « un antisémitisme catholique ». Est-ce qu'il y en a plusieurs, des formes d'antisémitisme au fond, dont celui que décrit Serge? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
Je trouve qu'en effet, il y a beaucoup de choses dans ce témoignage très intéressantes. Bon, d'abord un témoignage sur l'antisémitisme des Polonais qui, aujourd'hui, dans la Pologne d'aujourd'hui, semble faire débat, mais que les historiens, qui a été très documenté donc par les historiens. Et effectivement, il parle d'antisémitisme catholique, la matrice d'origine de l'antisémitisme est effectivement d'ordre religieux. C'est l'hostilité d'une religion monothéiste à l'égard d'une autre qui l'a effectivement précédée. Et pendant longtemps, on a préféré parler d'antijudaïsme plutôt que d'antisémitisme catholique, parce que on considérait qu'il y avait une discontinuité entre ces formes d'hostilité. Aujourd'hui, plus les historiens travaillent sur le sujet, plus il apparaît qu'il y a quand même justement une continuité entre certaines formes d'animosité à l'encontre des Juifs qui se mettent en place dès le Moyen-Âge et l'antisémitisme contemporain. Donc, antisémitisme catholique, oui, monsieur parlait d'imbécilité, je crois, je ne sais plus...
Il l'a dit plus vertement, je crois, mais c'est ce que ça voulait dire.
Ouais. Oui, je ne sais plus qui disait que l'antisémitisme était le socialisme des imbéciles. Et il y a effectivement une forme d'antisémitisme social qui est apparu au milieu du 19e siècle, qui a été porté par certains auteurs d'ailleurs de gauche comme Proudhon ou encore Toussnel au milieu du 19e, qui est resté d'ailleurs présent à gauche en France jusqu'à l'affaire Dreyfus et même un peu au-delà, hein. Et puis il y a un antisémitisme politique qui va apparaître aussi à la fin dans le courant du 19e siècle, mais qui va se structurer et qui tend à prêter aux Juifs la responsabilité d'un certain nombre d'événements politiques comme la Révolution française, comme la Révolution bolchévique ensuite, parce que l'antisémitisme a quand même cette particularité d'être une forme de pensée qui réconcilie des choses en apparence contradictoires. Et donc, dans les mythes de l'antisémitisme, il y a par exemple le juif bolchévique et le juif banquier.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle forme d'antisémitisme, Denis Péchanski? Ce qu'on voit dans la rue, est-ce qu'on dit que c'est quelque chose de neuf? Ou est-ce qu'au fond, c'est cette forme d'antisémitisme qu'on a vu arriver dans divers mouvements historiques? Alors, il y a eu de l'antisémitisme drainé dans le boulangisme, drainé dans le poujadisme. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un mouvement de ce genre-là pour charrier à une autre forme d'antisémitisme, ou c'est celui-là finalement qu'on retrouve sous une forme différente?
Je pense qu'il faut continuer l'histoire, c'est-à-dire qu'on a différentes composantes qui étaient très très bien présentées, et vous-même vous faites référence au boulangisme à d'autres moments de cette histoire de l'antisémitisme. C'est comme une sorte de continuum qu'on a dans la société française, et puis à certains moments vous avez des moments de fusion, d'explosion, où il y a une distorsion, une sorte de délitement de la société. On a l'impression que l'atomisation entre individus est en cours et que on perd toute référence aux valeurs traditionnelles héritées de la Révolution française, et on va vers ces logiques de rejet de l'autre. Et l'autre, il y a toujours le juif et il y a d'autres que le juif. Bon. Le juif, l'étranger, pendant la guerre, le juif, l'étranger, le franc-maçon, le communiste, et puis ainsi de suite. Et là, depuis les années 60, c'est rajouté évidemment une autre composante, avec l'importation du conflit israélo-palestinien en France, et puis greffé encore sur cette importation-là, l'islamisme radical qui a émergé en France depuis 15-20 ans, et qui... là, évidemment, a été exacerbé, on le voit au travers les meurtres des derniers 15 ans.
Marianne Matar-Bounoucci.
Oui, alors en effet, c'est l'avatar successif donc qu'il fallait mentionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet antisémitisme à matrice arabo-musulmane, on va dire pour faire court, et en disant bien à chaque fois que ça concerne une minorité d'individus dans notre société, on retrouve l'antisémitisme à matrice européenne qui est arrivée de deux façons, qui est arrivée à la fin du 19e siècle en Algérie. N'oublions pas que Drumont s'était fait élire en Algérie et qu'il y avait une production de textes antisémites considérable lorsque l'Algérie donc était colonie française, et qui va arriver ensuite au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il va y avoir une propagande nazie et fasciste d'ailleurs ensuite, très importante en direction de ces pays, avec diffusion des protocoles des sages de Sion, etc. Donc toute cette bibliothèque de l'antisémitisme qui est née en Europe, elle va s'ajouter à des formes d'antisémitisme religieux qui sont liées à la tradition proprement musulmane.
Il y a une chose, moi, qui me frappe dans ce qu'on a entendu, ne serait-ce que ramasser simplement sur le week-end dernier. Comment s'appelle-t-il? Voilà que j'ai oublié son nom. Finkielkraut, pardon, se fait... insulté parce qu'il est juif. Quasiment quelques heures après ou avant, peu importe, c'est Ingrid de Levavasseur qui a été candidate et puis qui ne l'est plus, qui se fait insulter de la même manière, qui se fait traiter de juive. On a un peu l'impression, par ailleurs, que au fond, on met désormais derrière ce mot-là une espèce de symbole de toutes les détestations. En fait, une espèce de mot-valise désormais qui parle simplement de haine, en fait, au-delà même de toute forme de religion et de ce qu'est la religion juive réellement.
Oui, c'est Denis un mot-valise. Oui, c'est un mot-valise. Et en même temps, on doit absolument insérer l'antisémitisme dans l'ensemble des formes de rejet de l'autre. Bon. Et là, par exemple, les thématiques complotistes, qui sont extrêmement prégnantes aujourd'hui et qui sont entretenues, entre autres, par les réseaux sociaux et qui sont vraiment très, très fortes dans le mouvement social qu'on connaît depuis quelques mois. Bon, ces thématiques complotistes ont plusieurs têtes. Donc on va avoir la thématique des Illuminati, le complot sioniste international, l'immigré et la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire que le gouvernement, les élites, les médias seraient là en train d'organiser l'importation en quelque sorte de populations africaines pour remplacer les populations gauloises entre guillemets. Et donc cette thématique-là est vraiment au cœur de tout ce discours complotiste qui, je dois dire, doit être et on le voit bien. Articule ces différentes figures de rejet avec aussi l'antiparlementarisme et la critique de toute démocratie représentative. Et ça, ça n'est pas d'hier.
Non, mais moins il y a de représentativité, plus un mouvement peut dire tout et n'importe quoi, aussi, en fait, au fond. Non,
ben on le voit bien, on le voit bien.
Oui, puisque... et puis je crois qu'il y a un contexte presque, un sentiment d'anomie en ce moment, qui est lié au fait qu'en effet, ce mouvement a déclenché certaines formes de violence, de contestation des institutions, et cela contribue à libérer, en effet, une parole. Sur le mot lui-même, vous avez tout à fait raison, l'adjectif juif est devenu dans certains contextes un adjectif dépréciatif et j'entendais un sociologue qui a fait une enquête justement on peut dire d'un stylo qui est cassé, ce stylo est juif.
Ah oui.
Pour dire il marche pas bien, pour vous dire à quel point on en est effectivement, et d'où l'importance, je crois, mais on en reparlera peut-être, et peut-être y aura-t-il des questions à ce sujet, d'introduire un véritable enseignement sur ces questions d'hostilité identitaire qui ne concernent pas que les Juifs.
Eh ben écoutez, d'ailleurs, puisqu'on est là et qu'on a un enseignant avec nous, c'est Arnaud qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir, soyez bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Voilà, ça fait maintenant 20 ans que j'enseigne. J'ai vécu d'innombrables réformes de l'éducation nationale et mon constat que je partage avec d'autres de mes collègues est le suivant. Je me demande si les économies qui ont été faites, les rabots sans cesse qui ont été faits au niveau de l'éducation nationale, on ne paye pas les conséquences maintenant. J'ai l'impression qu'il y a un abêtissement de la société lié justement au manque d'éducation. Pourquoi autant de xénophobie, d'islamophobie, toutes les phobies se explosent alors que, voilà, on dit toujours, oui, mais il y a Internet, tous les savoirs sont sur Internet et pourtant se développent de plus en plus de tous les penchants négatifs de la société, de l'histoire. Et je me pose la question si on n'est pas en train de payer justement tout ce dénigrement lié à l'enseignement et toutes ces réformes qui visent de moins en moins la qualité plutôt que la quantité.
Merci Arnaud, on a bien compris ce que vous nous disiez et Anne-Marie Matar-Bonucci, comment on enseigne aujourd'hui quand on est confronté à ce genre de questions-là? Alors Arnaud a probablement raison, il y a, je ne sais pas s'il y a un manque de culture globalement, mais comment on enseigne surtout aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites, disons les choses clairement, qu'est-ce que vous dites à un élève qui est en face de vous, qui vous dit ah bah le protocole des chasses de chiens, bien sûr c'est la vérité. Comment vous faites, comment vous êtes confronté à ça vous?
Alors, à l'université, on n'est pas encore confronté à ça, mais ça viendra peut-être. Mais je pense qu'il faut justement, plutôt que d'éviter ces sujets, ou plutôt que de se dire on va les aborder dans leur forme la plus, dans leurs manifestations les plus paroxystiques, en l'occurrence histoire de la Shoah, histoire des génocides, qu'il faut enseigner. Hein, c'est rentré dans les programmes scolaires, c'est très important, cela doit continuer, mais en amont de cela, je pense qu'il faut introduire un enseignement sur les hostilités identitaires, sur les racismes, en montrant que, malheureusement, c'est une chose très ancienne, qui est très répandue, qui est quasi universelle, que quand c'est pas le juif qui est en cause, c'est, par exemple, le méridional en Italie, qui est considéré comme un être inférieur par celui qui est dans le Nord, etc. Non pas du tout pour banaliser, mais pour essayer de montrer quels sont les processus communs, effectivement, et comment on en vient, dans quel contexte social ou religieux, on en vient à stigmatiser quelqu'un qui est considéré comme différent. Alors pour ce qui est de l'antisémitisme, qui a une histoire bien particulière, qui est une forme d'hostilité identitaire tout de même spécifique, je pense qu'il ne faut pas découvrir la question avec la Shoah ou très brièvement avec l'affaire Dreyfus, comme c'est le cas maintenant. Hein. Donc cette question...
Il faut le prendre où ?
Mais il faut le prendre dès l'époque du Moyen-Âge, en parlant des expulsions des Juifs, en parlant de l'obligation pour les Juifs de porter la rouelle. Il faut parler de la contre-réforme, il faut parler de l'antisémitisme catholique, peut-être que cela dérangeait à une certaine époque de parler de cela, mais parler de l'antisémitisme catholique, ça nous permettrait aussi de parler de l'antisémitisme à matrice musulmane. Vous voyez, donc je pense qu'il faut penser la question comme un ensemble, ce qui n'est absolument pas fait pour le moment. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas, hein, mais il faut encore une fois penser la question comme un ensemble.
Denis Péchanski, enseigner différemment aujourd'hui ces questions-là?
Je vais peut-être pas me faire des amis chez mes collègues, mais j'aimerais bien qu'on prenne tous conscience qu'on est confronté à de telles difficultés, que c'est pas nécessairement lié à des politiques étatiques qui donnent pas assez de sous dans l'école. Voilà. Et que peut-être, nous, comme enseignants, on a une responsabilité particulière. Et que face à un tel mécanisme, un tel mouvement, une telle situation, effectivement, on doit tous être mobilisés et pas toujours dire et toujours attendre de l'État de nous fournir soit des moyens, soit le nombre de profs. Il y en a eu dans les dernières années avec de la présidence de François Hollande. Est-ce que ça a changé fondamentalement les choses? Je dis pas qu'il en faut pas, c'est pas le problème. Mais il faut savoir comment agir. Bon, par exemple, récemment, le dédoublement des CP en ZEP et ensuite CE1 et puis bientôt CE2. Effectivement, on voit où est la clé. Bon, et on peut se donner là les moyens. Mais j'aimerais bien qu'on prenne tous conscience de ça et pas simplement renvoyer aux autorités la responsabilité. Et puis sur la question de la Shoah. Bon, parce que effectivement, quand un gamin nous dit en face, ouais, mais d'abord comment les chambres à gaz, ça n'a pas existé. Si on arrive avec le bouquin de référence d'Hilberg qui fait 1500 pages sur le processus décisionnel dans la solution finale, on va avoir du mal à faire passer la formation. En revanche, si on donne quelques clés pour accrocher, qu'on explique par exemple qu'il va falloir quand même nous expliquer pourquoi on chauffe ce qu'on appelle sur les plans des chambres froides à 27 degrés. Et un gamin dit, ah ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est la température létale pour que le zyklon B, les pastilles de zyklon B se transforment en gaz. Pourquoi on fait des commandes de ventilation de zyklon B? On peut accrocher sur des mécanismes, des phénomènes. Et ensuite, le gamin étant ébranlé, on peut arriver à réfléchir ensemble sur ce que peut être l'antisémitisme meurtrier et un meurtre industriel.
On va aller faire un petit aller-retour Place de la République, mais j'ai une petite question avant parce que je veux qu'on reste sur ce thème-là. Comment vous allez faire, vous, les historiens, quand vous n'aurez plus de survivants pour aller dans vos... Alors là, vous êtes tous les deux professeurs en fac et ailleurs, donc ça donne le... Disons que c'est un peu différent, mais comment font les profs, comment font les historiens quand on n'a plus de survivants pour aller dans les classes, quand on n'a plus personne pour vous emmener à Auschwitz, vous expliquer, voilà comment ça va se passer. Est-ce qu'il faudra prendre les choses très différemment? Est-ce que ce ne sera pas un vrai problème de voir disparaître cette mémoire-là?
Parce que c'est un vrai problème ou pas de voir disparaître toutes les mémoires des périodes antérieures? Comment on fait ?
On fait de l'histoire, tout simplement. Hein, les témoins, c'est précieux et ça permet effectivement d'incarner une histoire. Mais malheureusement, quand ils seront plus là,
c'est précieux pour les plus jeunes dont vous parliez notamment.
Oui, mais d'abord, il y a beaucoup de témoignages qui ont été enregistrés. C'est pas pareil, évidemment. Et pour ce qui est des voyages à Auschwitz, bon, c'est précieux de les avoir, mais on peut aussi les organiser sans eux. Mais si vous voulez, les voyages à Auschwitz, c'est pas la solution miracle.
Non.
Moi, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut penser les choses, encore une fois, sur ces questions de manière plus globale.
Un petit aller-retour Place de la République, si vous le voulez bien, pour voir justement si, si le monde est là, qui est là et comment ça se passe avec vous, Julie Pietri. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Racontez-nous un peu autour de vous ce qui se passe.
Alors de là où je suis coincée, pressée contre les barrières avec le public et à deux pas des politiques et des associatifs, la place de la République semble vraiment très investie, la place en elle-même et puis les trottoirs alentours également. Nous sommes place de la République, mais ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas la République, me glisse mon voisin de foule, un homme athée. Parmi les personnes qui sont présentes ici ce soir, il y a des musulmans, il y a des femmes voilées, quelques-unes, un imam, quelques représentants de l'église catholique aussi, des juifs et beaucoup d'anonymes et qui crient « ça suffit » à intervalles réguliers. C'est le mot d'ordre de la manifestation de ce soir ici à Paris. Les gilets jaunes, eux, semblent très discrets. J'en parle parce que c'est un thème qui revient beaucoup dans la bouche des personnes qui sont ici. On en discute pas mal. Il y a quelques-uns de ces gilets jaunes qui portent leur couleur. D'autres croisés dans les manifestations précédentes. Les gens s'impatientent en fait un petit peu parce que les politiques peinent à se mettre en place. Donc les gilets jaunes que j'ai pu croiser dans des manifestations précédentes ont préféré, eux, ne pas s'afficher, être là, mais ne pas revendiquer leur appartenance au mouvement. Alors là, ce soir, le programme, ici, maintenant, c'est une lecture par des collégiens et puis la Marseillaise, dans quelques instants.
Merci beaucoup, Julie. Un tout petit aller-retour à Marseille, tiens, puisqu'on va faire le tour des manifestations de ce soir, rejoindre Marie-Christine Loriol. Marie-Christine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Racontez-nous comment ça se passe autour de vous à Marseille.
Bah écoutez, à Marseille, hélas, c'est très très calme. À peine un millier de personnes qui sont réunies en ce moment même sur le Vieux-Port, à proximité de l'Ombrière. Un rassemblement empreint de solennité. Les visages sont graves, le silence pesant, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Certains brandissent les lettres de fraternité. D'autres panneaux affichent « L'antisémitisme, c'est non et toujours non ». Une poignée de gilets jaunes se sont joints à la foule et quelques drapeaux du Parti communiste flottent au bord de l'eau. Des élus sont présents, de La République En Marche, du Parti socialiste et des Républicains, dont le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui est venu au tout début du rassemblement. Auparavant, il avait reçu dans son bureau les membres de Marseille Espérance, l'Assemblée des principaux représentants religieux et communautaires de la ville, dont bien sûr le grand rabbin de Marseille, qui est ensuite venu ici, lui aussi, sous l'Ombrière, sur le Vieux-Port.
Merci beaucoup, Marie-Christine. Denis Péchanski, comment il faut les lire, les manifestations d'aujourd'hui, de ce soir? Est-ce qu'il faut vraiment regarder les chiffres? Est-ce qu'il faut... Comment il faudra les lire, selon vous?
Alors, premièrement, il faudra regarder les chiffres, parce que quand il y a eu les assassinats successifs de juifs dans la dernière décennie, dans les manifestations, il n'y avait que des juifs plus quelques non-juifs.
Et il ne s'est pas toujours passé quelque chose, puisqu'après Mohamed Merah,
il ne s'est rien passé. Il n'y avait rien. Bon. Donc, je veux dire qu'il y avait le sentiment, vraiment, par rapport à Carpentras 90, profanation aussi de tons juifs, où là, il y avait vraiment une très forte mobilisation dans la société française et dans la société politique. Là, ces dernières années, c'était vraiment très inquiétant. Ce qui est dit sur Marseille m'inquiète beaucoup. Ce qu'on voit sur Paris est quand même très spectaculaire. C'est un mouvement qui a une ampleur très significative, Place de la République. Maintenant, il faudra aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faudra aller au-delà des décisions politiques, au-delà de la répression nécessaire des actes antisémites qu'on a évoqués, qu'on veut renforcer, au-delà même de l'indispensable contrôle des réseaux sociaux. Il faudra que la société française prenne en charge vraiment et soit convaincue de la nécessité de rompre avec cette lèpre sous toutes ses formes,
et prenne
qu'elle
en charge.
Rompe avec le complotisme et qu'elle revienne aux valeurs traditionnelles, les valeurs de référence que sont liberté, égalité, fraternité, laïcité pour la construction d'un vivre ensemble. C'est autour de ça que se fera le vrai enjeu, le vrai changement, le vrai bouleversement, vrai signe qu'il y a un tournant.
Et comment ne pas être d'accord évidemment avec ce que vous dites, mais qu'est-ce qui ferait, est-ce que l'électrochoc est suffisamment là pour qu'on prenne tout ça à bras-le-corps, selon vous, Anne-Marie Matar-Bonucci?
Écoutez, on peut en rêver, en tout cas, on peut l'espérer. Nous avons créé avec des universitaires et des enseignants du secondaire une association qui s'appelle Alarmée, pour essayer, qui veut dire association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. Et en effet, l'État n'a pas les clés de toutes les solutions, mais l'éducation est quand même, je pense, quelque chose d'absolument essentiel. Et je crois que, en tout cas, à notre niveau, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est d'essayer d'inciter les pouvoirs publics, là, à prendre vraiment leurs responsabilités. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais on n'a pas fait assez. Sur les questions du genre, l'éducation nationale a fait beaucoup ces dernières années, et je pense que sur les questions de racisme, de discrimination, il y a le même chemin à parcourir.
Bonsoir Martial.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Martial, on vous écoute.
Je vous remercie. Moi j'ai souhaité intervenir parce que je pense qu'effectivement tout est une question d'éducation. J'ai entendu que certains députés pensant bien faire souhaitaient que le sionisme soit considéré comme une nouvelle forme d'antisémitisme, et je voudrais m'interrompre. Parce que le sionisme est une idéologie politique, comme le communisme, le socialisme, le capitalisme. Et je revendique le droit pour un juif d'être sioniste ou de ne pas être sioniste, comme tout un chacun a le droit de se déterminer d'être sioniste ou pas sioniste. C'est vraiment une question d'éducation. Et de même qu'on ne choisit pas d'être homme, d'être femme, d'être juif, d'être musulman, on est dans une culture, mais on a quand même le choix de dire je suis sioniste ou je ne suis pas sioniste. Et le fait de ne pas être sioniste ne doit pas non plus faire conclure aux sionistes qu'on est anti-sioniste. Mais... Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois très bien ce que vous voulez dire, Martial, et pardon de vous interrompre parce que la liaison est très très mauvaise, mais on a bien entendu ce que vous disiez. On a mille questions là-dessus, Denis Péchanski. Et en gros, pour le résumer de manière un peu simpliste, où commence l'antisémitisme dans l'antisionisme, fermez les guillemets.
Alors, déjà, il faudrait clarifier un petit peu le vocabulaire, et finalement, l'intervention de Martial y contribue. Très souvent, on entend par antisionisme un désaccord avec la politique du gouvernement israélien. On peut être en désaccord avec le gouvernement israélien, comme avec le gouvernement français, comme voilà, point. Ça, c'est évident, et ça n'est pas une définition de l'antisionisme. L'antisionisme, c'est une opposition à un projet qui est la construction d'un État juif. Or, avant 48, il n'était pas là. Après 48, il est là. Donc, ça prend évidemment des modalités différentes. J'apprécie, je dois dire, la nuance qu'a voulu mettre notre interlocuteur entre ne pas être sioniste et être antisioniste, parce que très clairement, aujourd'hui, l'antisionisme est un habillage, la plupart du temps, de l'antisémitisme. Mais pas besoin de loi. Si c'est un habillage de l'antisémitisme, on doit pouvoir donc le traquer comme un antisémitisme quand il s'exprime, comme il s'exprimait face à Finkielkraut. Et sinon, on va avoir à l'inverse une sorte de victimisation et donc un contre-effet d'une certaine façon. Et ne vous inquiétez pas, si je puis dire, malheureusement, c'est si on interdit par la loi l'antisionisme, on trouvera un autre mot. Et derrière le mot, on mettra le même antisémitisme.
Marianne Matar-Bonucci, il y a un contexte en fait à chaque fois, et c'est le contexte qui dit les choses et qui dit l'insulte ou pas. Ça, pour le coup, effectivement, j'imagine que tout le monde peut le percevoir, non ?
Oui.
Dans la manière dont on insulte quelqu'un, en gros, dans ce qui s'est passé devant Finkielkraut, par exemple, on sait bien qu'on est dans l'insulte antisémite et qu'on n'est pas dans le dialogue politique avec Alain Finkielkraut à ce moment-là.
Tout à fait. Oui. Non, mais là, c'est absolument clair, effectivement. Et je pense que les enquêtes qui sont menées sur les auteurs des insultes en question ont plutôt tendance à confirmer, au moins pour l'un d'entre eux, que antisionisme est bien là pour sale sioniste et bien là pour sale juif, en gros. Hein, je crois que ça fait aucun doute, mais je partage l'avis de Denis Péchanski sur le fait qu'une loi serait absolument désastreuse, hein, et que d'abord il y a quand même encore une certaine polysémie chez certains à travers le mot antisionisme, même si c'est très souvent l'habillage, en effet, hein, de l'antisémitisme. Mmh. Et on a déjà des lois suffisantes, la loi de 72 qui permet de pénaliser, en effet, ce genre de manifestation.
Je voudrais qu'on aille faire un tout petit aller-retour à Toulouse. Je l'avais promis, j'ai oublié. Bonsoir Alain Gastal.
Bonsoir Fabienne.
Racontez-nous à quoi ressemble la manifestation qu'il y a autour de vous.
Il y avait beaucoup de monde à 19h, il y avait sans doute entre 1500 et 2000 personnes, donc ça fait quand même pas mal de monde autour du mémorial de la Shoah, cette grande sculpture métallique à côté du musée de la résistance et de la déportation près du Grand Rond pour ceux qui connaissent Toulouse, donc beaucoup de monde, pas de discours, hein, pas de personnalité, pas de slogan.
Ah non. On vous a perdu.
Donc une vraie manifestation, un vrai rassemblement de citoyens.
On vous a retrouvé, puis on vous a reperdu, ça va.
Récupérer un petit moment quand même, j'allais...
Allez-y.
Alors juste un petit moment quand même, si j'ai encore deux secondes, pour vous dire que quelques gilets jaunes sont venus presque timidement pour dire que eux aussi, ils voulaient protester contre l'antisémitisme. Ça a donné lieu à quelques discussions animées, mais tout s'est finalement très très bien passé.
Merci beaucoup Alain Gastal. Denis Péchanski, ça va être un peu le aussi ce qu'on regardera dans cette manifestation, dans ces manifestations. Est-ce qu'il y avait du jaune? Est-ce qu'il n'y avait pas de jaune? Faut-il demander aux gilets jaunes de condamner plus fermement aujourd'hui aux yeux de ce qui s'est passé? Est-ce que des choses que vous diriez vous aussi ou pas?
C'est un peu tard, non?
Je sais pas, c'est vous qui le dites.
Je veux dire, ces thématiques d'exclusion, de cette référence récurrente à Macron, Rothschild, Rothschild Family, comme on a pu voir lors de la manifestation à Bourges, qui était une manifestation officielle quand même. Ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, je pense que ça alertait depuis novembre. Donc, c'est vrai qu'on attendait, de façon récurrente, une position ferme, mais de tous ceux qui étaient s'autoproclamés leaders, parce que malgré tout, on a des personnalités qui apparaissent, qui émergent. On les a quand même très peu entendus, là. Il y a deux jours, il y en a deux qui se sont exprimés. Je pense que là, il va falloir réfléchir, non pas à ce qu'ils doivent faire maintenant, parce que on est un peu dans une queue de comète, mais à ce qui a été fait pendant tous ces mois-là. Et ce qui a été fait, ça se traduit dans une étude, qui est une étude de Conspiracy Watch qui essaye d'analyser le complotisme. Avec la Fondation Jean Jaurès et avec l'IFOP. Il s'avère que pour tous les indicateurs du complotisme, on a un facteur 2 du côté de ceux qui se revendiquent gilets jaunes. Donc on a un vrai problème. On a un vrai problème et dont on doit avoir conscience. Parce que il y a derrière une réalité, évidemment, de crise sociale. Au-delà des personnes gilets jaunes, on a vraiment, il y a une société française qui était secouée et qui considérait que, d'une certaine façon, il y avait une manifestation par délégation de leur propre protestation dans des domaines, je pense par exemple aux infirmières, mais quand même, là, il y a une singularité qui doit interroger.
Une dernière question qui va dans le sens de ce que vous dites, Denis Péchanski, c'est Nicolas qui nous appelle. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors, je vous explique, je suis professeur d'histoire et géographie en collège. Et il y a quelques années de cela, j'avais la possibilité de faire venir des survivants des camps, notamment d'Auschwitz. Et mes élèves, d'une manière unanime, étaient outrés, scandalisés par ce qui avait pu être l'antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Quelques années plus tard, je poste sur mon Facebook, où il y a des anciens élèves, que j'accepte, un article qui dénonce l'antisémitisme de Dieudonné et ce qui est véhiculé à travers la quenelle. Et là, ces mêmes élèves qui avaient pleuré, qui s'étaient positionnés contre l'antisémitisme, m'interpellent sur les réseaux sociaux en me disant que je participe à une théorie du complot, au fait que les médias sont cadenassés par les juifs, et ces mêmes élèves qui étaient contre l'antisémitisme quand ils étaient en troisième et quand ils voyaient l'exemple de la Seconde Guerre mondiale basculent dans une autre forme d'antisémitisme qui est liée à un rejet des médias, qu'ils pensent cadenassés, et à une forme de théorie du complot. Et moi je me demande comment agir puisqu'on a parlé de l'éducation dans l'émission. Cette éducation, elle est faite. Quand elle est faite et qu'elle est reçue d'une manière sensible, logique, ça marche. Et pour autant, ces mêmes élèves, quand ils sont à l'université, sont capables de basculer dans un antisémitisme autour des réseaux sociaux et de la théorie du complot. Je me demande comment agir, parce que là... Je me dis que par rapport à certaines réactions, je suis démuni en tant qu'enseignant.
Merci beaucoup, Nicolas. Marianne Matar-Bonucci, rapidement, oui, qu'est-ce qu'on répond à Nicolas, pauvrette ?
Oui, on en revient à l'importance de l'éducation, de développer effectivement une approche critique des médias, enfin des médias, des réseaux sociaux en l'occurrence, et des médias. Et je crois, encore une fois, un apprentissage de ce que sont les hostilités identitaires, effectivement, pour pouvoir se prémunir. Le rapport avec les anciens déportés, ça ne suffit pas. Laisser entendre, voilà, vous avez des préjugés, donc ça va conduire à la catastrophe, ça ne suffit pas.
Denis Péchanski, pour conclure.
C'est très vite, très important le témoignage qui vient d'être donné, parce que, un, ça montre que le choc émotionnel, la charge émotionnelle ne suffit pas, et qu'il faut faire appel à la réflexion, si vraiment on veut que ça s'inscrive dans la durée. Et deuxièmement, ça interroge la question des réseaux sociaux. C'est la question clé, et c'est pas par hasard si ce sont les jeunes qui sont dans l'étude sur le conspirationnisme, la population en moyenne la plus touchée. Il y a vraiment une corrélation inverse avec l'âge. Plus on est jeune, malheureusement, plus on est influencé par les réseaux sociaux et donc par tout ce qui s'est dit, à même niveau d'égalité et en général sous les formes les plus ultra de l'expression désinhibée.
Preuve qu'on a beaucoup de travail, vous, les profs, nous, les journalistes aussi, et d'autres encore, les politiques et tous ceux qui sont d'ailleurs en ce moment sur les places. Merci beaucoup, merci à tous et portez-vous bien.